Salut à toutes et tous, c'est l'émission lundi matin, vous êtes bien sur Radio Libertaire. Un petit coucou spécial à Jean-Jacques et Nicole de Saint-Malo.
Ta fine moustache de manouche te donne l'air un peu louche d'un déménageur de château, d'un cousin de Django. Entre poteaux avec Capi et Momo, sur votre casquette à l'envers, bronzé même en hiver, les chevaux frisettes, d'office on les arrête, ça se passe aux abesses, près du boulevard Barbès. Délit de faciès,
veuillez présenter vos papiers.
Délit de faciès,
ça fait 10 fois dans la journée.
La bactoise, t'as des chiens, une iroquoise et des piercings de nose. Tu zones près des poubelles, chef, on l'interpelle. Te v'là en slip chaussette, ficelé dans les staffettes.
Hop, délit de sale tête.
Tu sais bien qu'il dérange ton prénom du Sahel, c'est pas celui d'un ange, Gabriel ou Michel. Résultat de ton CV, va direct au panier. Vous êtes originaire de quel coin du Congo?
Délit de museau.
Délit de faciès.
L'agence est vraiment désolée.
Délit de faciès.
L'appartement est déjà loué.
Les hommes laissent, nous dit-on, tous ces beaux endroits. Encore faut-il avoir la couleur locale des gens d'ici-bas. Les oreilles décollées, rapprocher du crétin du village qui, loin des métissages, est issu d'un mariage, mariage entre cousins, cousins issus de germains.
Voilà, on vient d'écouter les escrocs, donc l'émission lundi matin, Nicolas, Sylvie, Laurent avec vous aujourd'hui, autour d'un livre que j'ai déjà évoqué, mais brièvement, c'est Histoire de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, histoire au pluriel, histoire avec un S, et c'est ce qui fait toute la particularité donc, de ce livre-là. Sur lequel on va revenir tout au long d'une série d'émissions, d'ailleurs, parce que, à nos yeux, ce livre est important. Je pense que c'est un livre important sur les histoires de la ZAD. Et voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Ce sera pour tout à l'heure, donc 11h30. Dans quelques instants, ce sera la rubrique Agenda, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble. Et on écoute tout de suite, après avoir écouté Les Escrocs, on écoute Neftcher Ilian qui chante donc Jacques Prévert.
Thank you. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Le cancre, Jacques Prévert, bien sûr. L'agenda, donc, quelques rendez-vous à vous proposer, une sélection de rendez-vous. On va commencer par la Kunda. On va commencer par la Kunda. Donc, c'est à Vitry-sur-Seine, pardon. Alors, je vais vous offrir un tout petit blanc, hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Voilà, toutes mes excuses. Voilà, donc un petit blanc offert gracieusement, et donc Vitry-sur-Seine. Donc je vous disais, la Kunda, dans le cadre donc des digitales et de leur festival, donc arrêt à la Kunda, donc à Ivry-sur-Seine, pour la défense des derniers squats d'organisation politique et de vie en Ile-de-France. Un week-end qui va se passer donc du 4 au 6 avril 2025 à la Kunda. Alors la Kunda, Vitry, faut-il le rappeler, C'est un squat qui a ouvert en 2020 et qui regroupe une soixantaine de personnes, des précaires, des militants, des sans-papiers, des étudiants, des familles également, et un lieu ouvert qui propose entre autres des permanences administratives, un marché solidaire, une salle de sport, une bibliothèque, une salle de cinéma, et donc globalement on va dire un lieu donc ouvert au collectif, un espace de liberté et d'autonomie politique. Ça va se passer à la Kunda, je l'ai dit, du 4 au 6 avril. Et puis notez aussi, toujours concernant la Kunda, dont il faut rappeler l'adresse hein, quand même, 51 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine, ça va se passer le 5. Et le 5, il va y avoir un carnaval et une course de chars. Alors pour cette course de chars, il y a un dress code, comme on dit, et ça va de soi, ça sera une maison sur la tête. Donc, 51 boulevard de Stalingrad, le rendez-vous est donné samedi 5 avril à 16h30 pour ce carnaval et cette course de chars. Et puis, d'autres rendez-vous aussi que je voulais vous proposer dans cette sélection-là, c'est la coordination anti-répression qui reprend son cycle d'atelier. Alors ça a commencé déjà la semaine, le mois dernier. Et donc là, il y a un prochain rendez-vous. Ça va être le 3 avril, donc à 12h30. Donc s'organiser ensemble contre la répression avec la coordination anti-répression. Jeudi 3 avril, le rendez-vous est donné au tribunal de Paris, c'est métro Porte de Clichy dans le 17e, de 12h30 à 19h. Un petit mot quand même sur ce rendez-vous, donc qui s'appelle « Et tout le monde déteste les comparutions immédiates ». Tous les jours dans les tribunaux ont lieu ces audiences où l'on juge immédiatement des personnes interpellées et mises en garde à vue, bien qu'elles bénéficient automatiquement d'un délai pour préparer leur défense. Rares sont celles qui en profitent. Les interpellés en sortent de 48 heures de garde à vue, fatigués, sonnés, désorientés. La justice a un langage codifié, souvent inconnu des personnes. Les rôles respectifs des juges, des procureurs, des avocats sont joués selon un folklore établi depuis longtemps. Assister à des comparutions médiates permet de décoder, de se rendre compte des fonctionnements et dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Donc rendez-vous est donné jeudi 3 avril, midi et demi, sur le parvé du palais de justice de Paris Métro. Porte de Clichy. Voilà, et puis évidemment, il est donné consigne de ne pas venir avec dans ses poches des objets coupants, des casques et des bouteilles en verre, etc. Voilà, c'est donné. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous plus tard au mois d'avril, mais on y reviendra. Un petit tour à la librairie Publico, au 145 rue Amelot, où le programme du mois d'avril se met déjà en place avec une exposition. Le vernissage va avoir lieu le 3 avril à 19h. Donc une exposition qui restera en place tout ce mois d'avril à Publico et qui s'appelle « Le temps du féminin ». Le temps du féminin, donc à découvrir sur les murs de Publico à partir du 3 avril, exposition de Mademoiselle Martine qui présentera donc l'exposition éponyme d'après les titres de l'album. Une exposition originale à la découverte d'un univers onirique, singulier et sensuel. Je ne fais que lire parce que j'ai pas encore vu l'expo, bien évidemment, vu qu'elle n'est pas encore accrochée. Mademoiselle Martine a fait le choix lors de la sortie de son album de croiser ses mots avec l'art visuel, laissant place à un autre imaginaire et créant ainsi une version agrandie et mutante d'elle-même. Pour cette exposition, la graphiste Viviane Roche a sublimé les illustrations lumineuses de Chantal Caraman qui accompagnent donc l'album. Voilà donc à découvrir. À la librairie Publico. Et puis la semaine prochaine, on passera un extrait sonore. Autre rendez-vous encore, toujours à la librairie Publico, donc au 145 rue Amelot, avec le vendredi 4 avril à 19h, Stéphane Perry, guitariste-chanteur, qui présentera donc son album. Là aussi, on essaiera de vous proposer quelque chose à écouter. Le samedi 5 avril, ça sera Elios Pozos, auteur d'un livre qui s'intitule donc Les mains vides. Alors, il sera accueilli donc à 16h pour une rencontre autour de son livre. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a à 16h rencontre pour discuter de son roman et de sa conception d'une littérature des imaginaires anarchistes. Et précédé à 14h, avec le même, hein, d'un atelier d'écriture. Un petit mot là-dessus, donc, qui est donc un extrait du livre. Pour sa rencontre avec ce lieu camarade anarchiste, Pozos, propose un atelier d'écriture invitant en voyage à la découverte d'autres façons de faire, de dire les luttes et collectifs libertaires à travers le monde et le temps, pour nourrir de possibles utopies ou chronies. En parallèle, sera initié un atelier libre, de décoration de livres blancs à partir d'épreuves à corriger sans couverture illustrée et en référence aux infus abordés dans Les mains vides sous la rubrique Encre. Voilà, c'est que vous dire encore que le livre est déjà donc disponible à la librairie Publico, que vous pouvez découvrir sur le site, allez-y, parce qu'il y a une présentation assez longue. Alors je vous invite vivement à aller sur le site librairie-publico.info. Pour l'atelier d'écriture, ça sera dans la limite des places disponibles. Donc faut s'inscrire pour cela aux heures d'ouverture de la librairie. Vous téléphonez un petit coup de fil au 01 48 05 34 08 ou un mail si vous préférez librairie-publico@sfr.fr. Voilà, et puis vraiment il y a une présentation assez complète, hein. Donc n'hésitez pas sur le site librairie-publico.info pour en savoir plus. Le dimanche 6 avril à 16h, ça sera le Ciné Segui avec un documentaire qui sera proposé. Un documentaire qui s'intitule « Federica Monseni, la femme qui parle ». C'est un film fiction de Laura Magna, un film espagnol qui a été donc réalisé en 2021 et qui met en lumière donc Federica Monseni, cette militante de l'anarcho-syndicalisme espagnol, membre de la CNT, de la Fédération anarchiste ibérique, fille de militants anarchistes. Elle écrivit très tôt, dès 17 ans, de nombreux articles dans des journaux et revues du mouvement libertaire, ainsi que des romans populaires à caractère social. Le film s'attarde sur trois moments clés de sa vie. Avant la guerre civile, 1936-1939, quand elle est impliquée par la voix et l'écrit dans le combat social en Espagne. Pendant la guerre, quand elle accepte le poste de ministre de la Santé du gouvernement républicain. Et après la défaite du camp républicain, l'exil en France, son procès par les autorités françaises de Vichy qui veulent la livrer à Franco. Voilà, ça sera suivi bien évidemment d'une discussion, d'un débat. Et l'entrée est libre, bien sûr, comme tout ce que vous propose la librairie Publico. Et puis le vendredi 11 avril, il y aura un concert à 19h de Anwar Khan Group, un musique traditionnelle du centre France et du Rajasthan, avec Isabelle Blot, cornemuse et vieille roue, et Aman Khan, tabla, et Anwar Khan, harmonium et chant. Donc à la librairie Publico le vendredi 11 avril à 19h, et puis le dimanche 20 avril, eh bien c'est nous qui vous invitons à venir nous rejoindre donc autour du livre Histoire au pluriel de Lazad, qui sera aussi donc, je l'ai dit, l'objet de cette émission. Voilà, ce sera donc le dimanche 20 à 16h, accueil dès 15h. Voilà pour cette petite rubrique agenda. N'hésitez pas à élargir vos possibilités de rejoindre tel ou tel débat, rencontre, mobilisation, action, en allant sur le site notamment Paris Lutte Info et découvrir donc d'autres rendez-vous. Il est 11h24, on va revenir à la chanson, à la musique pour quelques instants et ensuite se retrouver donc avec Sylvie, avec Nicolas pour rentrer donc dans le vif du sujet de ce jour, histoire de la ZAD.
Ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine. La casquette de travers, j'avais la classe ouvrière. C'était toute ma vie, mon droit à la misère. Jusqu'à cette lettre qui dit encore merci. C'est ça au RMI dans un faubourg de Varsovie. J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pape ou deux. Mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. S'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'à un fil. Certains soignent la peur du vide à coups de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Moi je sais planter des clous, moi je sais rester debout. Moi je sais souder à l'arc et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide, moi je n'ai pas pris une ride. Je sais toucher le fond et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat, moi j'ai des caleçons et droits. Moi j'ai toujours mes mains d'or, moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges, moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Voilà, les Fatal Picard. On finit de s'installer. Il est 11h28. Un disque pendant qu'on finit de s'installer. Et puis, je suis quand même obligé d'y penser. Aujourd'hui, c'est la reprise des expulsions. Et ce jour signifie, eh bien, pour des milliers et des milliers de familles, de personnes, de squatteurs, eh bien, l'angoisse, cette angoisse donc de l'expulsion. Samedi, il y a eu une manifestation place de la République contre la reprise des expulsions pour le droit au logement. Hélas, avec un public très très limité. Alors que pourtant, ben, ça nécessiterait une mobilisation massive, tant le logement en région parisienne et partout en France, d'ailleurs, est un problème majeur pour bon nombre de personnes. Voilà, on écoute, après avoir écouté les Fatal Picard, je le disais, le temps qu'on finisse de s'installer, on écoute McNovchina par les Ramoneurs de Menhir. À tout de suite.
Matopchina, Matopchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se lever nos pas.
Ramoneurs de Menhir à l'instant, donc sur Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération anarchiste que vous pouvez bien sûr toujours soutenir, faut-il le rappeler, en vous rendant sur le site de la station, à la rubrique Nous soutenir ou en passant directement bien sûr à la librairie Publico au 145 rue Amelot. J'avais oublié de le faire, alors je vais le faire avant de commencer l'émission dans le cadre des fois de la petite revue de presse que je fais. Vous parlez effectivement d'échanges. Échanges, c'est le bulletin du réseau Échange et Mouvement que je pense un certain nombre d'entre vous ont suivi depuis de nombreuses années, peut-être même certains d'entre vous depuis 50 ans, puisque c'était l'âge de naissance il y a 50 ans de la revue Échange, de ce bulletin donc qui paraissait régulièrement sans discontinuité. Et suite au décès d'Henri Simon, survenu il y a quelques mois, Eh bien, la revue s'arrête, le bulletin s'arrête, et donc vous pourrez trouver à la librairie Publico le dernier numéro, numéro ultime, il n'est pas numéroté celui-ci, le numéro ultime donc de la revue Échange, qui présente un certain nombre d'interventions, on va dire, d'amis de la revue, ou en tout cas de celles et ceux qui ont soit côtoyé la revue, soit à un moment donné fait un bout de chemin donc avec la revue Échange, donc disponible à la librairie Publico. Alors, Histoire de la ZAD au pluriel, un livre qui va nous occuper pendant quelques émissions, je pense. Et je le disais, un livre qui a été important, autant pour Nicolas, Sylvie, que moi-même. Un gros livre, de 370 pages environ, avec tout un ensemble de témoignages, aussi de photos, de belles photos, on va dire, aussi des cabanes de la ZAD notamment, mais pas seulement, des photos d'arbres. Et une introduction. Et c'est par cette introduction que je vais commencer, parce que cette introduction de la part de celui qui est à l'initiative de ce livre-là, va tracer quels sont les objectifs et quelle est la ligne et l'esprit aussi qui a animé donc ce livre-là. Pourquoi ce livre c'est l'introduction, on va la lire, on écoutera un petit morceau de musique et puis après on reviendra dessus donc avec Nicolas et Sylvie, et on reviendra dessus pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui veulent le découvrir en se le procurant à la librairie Publico, donc le dimanche 20 avril à partir de 16h. Ça commence quand ces histoires ? À partir du moment où les premiers agris vendent leurs terres au Conseil Général dans les années 70, ou dans la foulée avec les occupations de fermes en soutien aux agris déjà menacés par le département et qui refusent de partir. Au début des années 2000, quand la relance du projet par l'EPS suscite la création de la CIPA en 2007 avec l'ouverture du premier squat, ou après, suite aux différents appels à occuper. Cette histoire à rebondissement n'a jamais cessé de commencer. Les étés 2009 et 2010, ceux des camps Action Climat de Notre-Dame-des-Landes et du Havre, ont vu surgir une critique en acte de projets industriels et de leurs alliés à la tête des institutions d'État. Ces moments ont forgé des amitiés qui se transforment parfois en collectifs, certains d'entre eux qui ont noué leurs affinités en se mêlant à l'organisation des camps, aux discussions, aux actions de sabotage, de blocage, de vélorussion ou d'autoréduction, ont souhaité poursuivre l'euphorie en décidant de vivre ensemble sur la ZAD. De nombreuses brochures et autres textes qui circulent sur des tables de presse subversives dévoilent une histoire de la ZAD racontée par bribes et constituent un puzzle à assembler. À leur lecture, on se rend compte que les premiers occupants, occupantes de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes n'ont suivi aucune direction, mais ont répondu à un appel lancé par quelques locataires du Conseil Général vivant sur place et aux alentours, et qu'avec le mouvement d'occupation, c'est une histoire hétéroclite qui a surgi, sans organisation centralisée, n'en déplaise à celles et ceux qui voudraient s'en attribuer l'origine. Car il s'agit bien d'un groupe informel local, les habitants qui résistent, qui en 2008 diffusent un message invitant à occuper les terres et les maisons destinées à la destruction, et qui petit à petit a accueilli quelques dizaines de personnes qui ont débarqué pour mettre des bâtons dans les roues du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Là, il y a une citation. Issu d'un texte aux révoltés de Notre-Dame-des-Landes. J'avais perdu un petit peu le fil. Voilà. Si nous sommes là depuis quelques semaines, mois ou années, c'est parce que nous avons répondu à cet appel. Alors, à toutes ceux et celles qui ont lancé cet appel, à ceux et celles qui ne se laissent pas faire, nous ne voulons pas seulement exprimer notre soutien, mais une posture distante et extérieure, mais bien dire que nous nous sentons liés dans ces idées et dans ces actes. Comme le précise un autre témoignage, nous n'avons pas été accueillis par des militantes, mais par des gens du coin, engagés ou pas, avec qui le chemin vers la compréhension mutuelle fut parfois long. Pourtant, leur manière de recevoir n'est pas anodine. On nous a transmis une sorte de légitimité à être illégitime. S'implanter dans les bois ou se loger dans les maisons visées par la construction du barreau routier n'est évidemment pas autorisé. Ces aventures nous ont amenés à vivre des ambiances bucoliques où s'entremêlaient l'hostilité de certains voisinages, les visites de la gendarmerie et le soutien indéfectible de locaux jusqu'alors isolés dans leur refus d'être aménagés. S'organiser a été vital, mais tellement laborieux. Les moments les plus insouciants sont difficiles à raconter, car ils ne correspondent que rarement aux images véhiculées par les récits de lutte. Nous avons pu faire revivre des rêves d'enfants, monter des cabanes et grimper aux arbres. Évidemment, les plus beaux souvenirs qui nous reviennent en mémoire n'ont rien à voir avec la stratégie ou les paris sur l'avenir. Les joies et les galères partagées ont fait naître des rencontres, certaines durent encore. Notre victoire est peut-être là. L'ouvrage que vous tenez entre vos mains n'a pas été conçu à des fins stratégiques. Il ne propose pas, et tant mieux, un son de cloche unique. Pas de grandiose « on »,« nous », »,« la », »,« zad » à l'unisson. Mais les contributions de 21 personnes, d'âges variés et issues d'horizons divers, qui ont vécu sur cette zone quelques mois ou plusieurs années, et qui ont accepté de livrer le récit d'un moment singulier de leur existence. Certaines sont très liées, quand d'autres ne se côtoient pas ou plus. Le propos de ce bouquin, qui entend conserver l'esprit de masse anonyme, du bouillonnement qui a animé la zone, n'est pas ou peu illustré par des photos dévoilant des scènes de vie collective ou livrant des portraits. Pas de chef, pas de porte-parole, un choix assumé à rebours du parti pris des livres publiés depuis 2012 ou des clichés mettant en avant certains groupes ou quelques individualités dissimulées derrière l'acronyme ZAD, qui pourtant ne représente pas l'extrême hétérogénéité des occupants-occupantes, servent à idéaliser et à personnaliser une aventure avant tout chaotique et collective. Parmi la cinquantaine de personnes contactées, une trentaine ont répondu. Une dizaine d'entretiens n'ont pas abouti. En cause, la lassitude d'avoir à revenir sur les nœuds d'une drôle d'aventure, la crainte d'être récupéré ou la volonté revendiquée de ne pas publier. Il aura souvent fallu insister quand certaines se décourageaient ou répondaient « à quoi bon ?» Quand d'autres blessées, écœurées, parce qu'elles avaient vécu sur cette zone, rechignaient à rouvrir leur boîte à souvenirs. L'intention première de cet ouvrage demeure donner la parole à celles et ceux qui, jusque-là, pour de multiples raisons, n'ont que peu ou pas été entendus. La diversité des personnes sollicitées et des lieux représentés, leur difficulté à s'exprimer aussi, explique souvent les délais plusieurs années dans certains cas, avant d'entamer l'écriture d'un récit ou d'accepter l'enregistrement d'un témoignage. Celles et ceux qui ont offert leur récit ne se sont pas concertés. Certains faits sont donc évoqués à de multiples reprises. Ces répétitions ne sont évidemment pas fortuites. On y évoque les mêmes événements qui se sont déroulés durant une même période et qui ont été vécus par des protagonistes foncièrement différents. La résistance aux expulsions de 2012 est documentée par de nombreuses photos ou vidéos. Certaines montrent des camarades qui se déplacent d'arbre en arbre, à 10 ou 15 mètres de haut, sur des ponts de singes. Même si ces pratiques de funambule s'approchent du merveilleux, le plus touchant se déroule au pied des arbres, des dizaines, voire des centaines de personnes encourageant les amis dans les airs, les applaudissant, jouant de la musique, sifflant, chantant. On y remarque des visages euphoriques qui crient, qui expriment leur enthousiasme, leur peur, leur solidarité. Pourtant, quelques années plus tard, une fois l'abandon du projet d'aéroport acté, c'est une autre forme d'encouragement qui émergera. Celui à dégager de la ZAD, à laisser place aux porteurs de projets validés par les administrations, à croire que la radicalité était alors perçue comme utile. On vous encourage parce que l'image médiatisée est forte et considérée efficace. Mais demain, nous n'aurons plus besoin de vous ni de ce genre de protestation. Alors il faudra partir, car la plupart de ces camarades sur zone ne se résoudront pas à faire confiance à l'État, à signer des papiers avec la préfecture, à quitter leur lieu de vie, à devenir raisonnables et deviendront par là même des problèmes, des saboteurs du mouvement, sic, tristesse, rage. Les ouvrages jusqu'ici parus n'ont accordé que très peu d'espace aux témoignages de ces personnes qui ont pourtant donné vie à des centaines d'autres, qui ont donné envie à des centaines d'autres de venir habiter sur la zone. Parmi elles, K, qui a participé aux occupations de la forêt de la gare de Vigneux, de la Saulce ou du Nonem, mais qui, estimant que l'entretien réalisé ne reflétait pas la richesse ni l'intensité de ce qu'elle avait vécu, a préféré se retirer des pages de ce livre. Difficile de résumer ou de mettre des mots sur des moments aussi denses. avec son accord, voici un extrait de ses palabres qui éclaire sur le parcours, l'implication et la détermination de ses premiers occupants, occupantes, loin, très loin du discours sur l'agriculture ou les communs. C'est plus tard, au Nonem, que j'ai construit ma cabane, et j'ai pas mal participé aux constructions à l'ancienne, gare de Vigneux, autre lieu occupé de la forêt, et les arbres étaient habités. Pour moi, c'était évident de construire et d'habiter dans ces endroits. C'était des positions hyper stratégiques, car très difficiles à reprendre en cas d'expulsion. Dans les autres lieux où j'ai pu habiter, résister, les arbres ont toujours été les meilleures solutions pour emmerder la police. Parce que c'est très compliqué pour eux de te demander de descendre. Par exemple, en Tasmanie, j'ai construit des plateformes à 60 mètres de haut. Certains arbres faisaient jusqu'à 100 mètres. Lors des chantiers de déforestation, nous venions de nuit et à l'aide de câbles, nous nous accrochions. Le câble était attaché à la plateforme suspendue en haut de l'arbre, puis passé dans la machine et repartait à la plateforme. Si la machine bougeait ou si le câble était coupé, la plateforme et ses occupants tombaient. La police était donc obligée, dans un premier temps, de faire descendre des arbres des personnes qui étaient perchées. C'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer des occupations de forêt. Nombre de textes évoqués plus haut reviennent sur cette préoccupation essentielle de la transmission. Raser une maison, c'est souvent en effacer les traces, rapidement, en nettoyant scrupuleusement ou en reconstruisant par-dessus. Les traces de l'acte de destruction sont des bribes de l'histoire des vaincus qu'il s'agit de faire disparaître. Sauver des décombres, quelques poutres, raconter des histoires de ces lieux, prendre des photos avant le désert sont autant d'actes de résistance face à la violence de la réécriture de l'histoire par les dominants. Garder des traces pour que la colère sache exister contre l'oubli. L'inévitable question demeure, qui écrit, à quelle fin, de quel point de vue? Pour beaucoup, l'histoire proposée par les ouvrages à gros tirage à partir de 2012 a été en quelque sorte kidnappée. Tout s'est déroulé un peu trop vite. Une éloge des cabanes, des portraits héroïques, des habitants incontrôlables, mais réellement vivants, de la D-280, et puis on est passé à des récits victorieux, à l'écriture d'une légende auréolée par quelques personnalités issues des réseaux intellectuels, universitaires, médiatiques, éditoriaux. Il aurait fallu se contenter d'une histoire écrite au cordeau, mythifiée, à base d'images symboliques, de communs, de reprises de terres, d'agriculture alternative, de lutte internationale. On retiendra plutôt cette mise en garde prémonitoire. Ce qui se partage aussi, c'est de se battre, sans s'en remettre aux politiciens, de ne pas entendre leur langue morte, de ne pas croire leurs promesses, de se méfier de leurs concessions. C'est à nous de prendre les choses en main, sans rien attendre de tous les rapaces qui font leur puissance sur notre dos. L'eau chaude, les cabanes, l'agriculture ou les communs n'ont pas été inventés par la ZAD. Par contre, cette zone a offert autre chose, un terrain de jeu. Un asile, une zone affranchie de beaucoup de règles insolentes, irréalistes, immatures, anonymes. Durant presque une décennie, un grand nombre de personnes en mal avec la société s'y sont retrouvées. Et il aura fallu des années aux forces de l'ordre et aux groupes dominants sur zone avant qu'ils n'en reprennent le contrôle. Les récits présentés dans les pages qui suivent se font l'écho de ces histoires. La plupart des textes de ce recueil sont inédits. Seuls deux récits sont déjà parus sous forme de brochures. Évidemment, ces pages en appellent d'autres afin qu'émergent des paroles jusqu'ici tues ou restées inaudibles. Voilà, c'est l'introduction de cet ouvrage. Je l'ai lu souligner ce qu'a réalisé le camarade qui a réalisé ce livre, qui est donc un travail extraordinaire, je trouve. Et je tenais donc à lire donc cette introduction qui définit bien l'esprit donc de ce livre. Il est 11h47, on se retrouve dans quelques instants avec Nicolas et Sylvie échanger, nous, et débattre donc autour de ce livre qui donc nous a tant marqué. On écoute un texte, c'est un texte anonyme, on va dire, qui s'intitule tout simplement « ZAD ».
La contestation, c'est lorsque je dis que ça ne me convient pas. La résistance, c'est lorsque je fais en sorte que ce qui ne me convient pas ne puisse pas durer plus longtemps.
Ici les roues, ici les roues, ici les roues. est noir. Réveillé après le cauchemar. Pourquoi des scènes de guérilla? Parce que guérilla. Là-bas le capital règne, ici nos propres règles. Réalisons nos rêves et décapitons la reine. Prêt à se battre dans l'arène, à abattre les sirènes. Justice de classe derrière la vitrine, marteau brise-glace pour faire des victimes. Longueur des masses frappant les voisines, rancœur des masses envers la doctrine. T'apprends des faces, tu caches des fesses, des fesses. Kit juridique, anonyme, face à l'injustice. Comme les sans-papiers sont victimes de leur justice. Parti de rien, on construit, on attend rien, on s'instruit. Abat la France, abat la France, abat les nazis, abat les nazis. International, antinational. Personne n'est illégal, non. Abat l'État, abat l'État. Le capital, le capital. Ça, 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 ça. De la zone à défendre. À la zone d'autonomie définitive. Occupation difficile. Revendication. Et organisation offensive, dynamique de groupe en développement. Révolution, 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 révolution. Féministes, fascistes au service de Vinci. Ces firmes ravivent les flammes. Qui a dit qu'ils étaient invincibles, hein? Ici la cible, ici la cible. Sortez des rangs.
Voilà, donc ZAD par un anonyme. Donc j'ai lu un extrait, enfin pas un extrait, hein, j'ai lu l'introduction du livre, histoire, je le disais, ben donc un petit peu eh bien, de donner le ton de l'esprit général de ce livre par celui qui l'a initié, qu'en est l'instigateur et le créateur. Et pendant que vous buviez un café, eh bien, j'en ai profité pour souligner pour souligner à quel point ce livre pour nous fait partie des livres essentiels et importants.
Nicolas.
Oui, je vais préciser juste à la chanson, par rapport à la chanson Anonyme, c'est le nom que s'est donné le chanteur, et c'est quelqu'un qui a commencé en faisant du rap sur la ZAD.
Donc l'anonyme n'est pas si anonyme que ça. L'anonyme n'est pas si anonyme que ça.
Voilà.
Il est anonyme quand même, si on ne sait pas son nom. Voilà. On ne sait pas son nom, donc il est bel et bien anonyme. Mais c'est son nom, anonyme.
Voilà. C'est anonyme, revendiqué.
Voilà. Ben, ça rejoint effectivement l'idée générale du bouquin, où en réalité, contrairement à ce qui se fait généralement quand il y a des récits de lutte, on ne cherche pas à personnaliser la lutte dans tel ou tel personnage public, VIP, porte-parole, revendiqué, qui court après les caméras. On en est très loin.
Ben, le livre lui-même était fait par des anonymes. Les gens qui interviennent dedans, qui parlent dedans, sont anonymes. Enfin, ils ont des pseudos, mais voilà. Et, ou des fois, ils sont pas de pseudos du tout non plus. Donc, c'est anonyme, effectivement. Et c'est un anonymat aussi qui était pratiqué largement sur la ZAD, par certains en tout cas, et revendiqué, et qui correspond aussi à des pratiques et des principes, quoi. Parce que c'est assez paradoxal en même temps, c'est vrai, de défendre une idée de société, de fonctionnement collectif, égalitaire, où tout le monde a accès aux ressources, à la parole, etc. Et puis de mettre en avant des personnages et
des porte-paroles.
Voilà, j'espère que j'ai amené des chansons de l'atelier rap de la ZAD. là aussi, c'est des anonymes qui font du rap, et c'est l'inverse de passer des heures et des heures sur une idole, par exemple, qui a fait le grand artiste, qui a fait une grande œuvre, etc. Et donc, qui est plutôt une version aristocratique qu'anarchiste.
Bah, en même temps, oui, vas-y.
Oui, bah c'est important de préciser cette démarche de la part de Nicolas. Avant même de parler des témoignages et de rentrer un petit peu dans le vif de ce qui a pu être exprimé, ce qui est important dans cette démarche de la part de ce camarade qui a réalisé donc ce bouquin-là, c'est effectivement d'écrire histoire au pluriel. Histoire au pluriel, ça veut dire quoi ? Que l'histoire, elle est faite par tout un tas de gens, par toute une multitude de personnes. Et que c'est donc pas une histoire, c'est des histoires. Et je pense que c'est important.
Bah, et je précise par rapport à ce que tu viens de dire, que malgré tout, et c'est dit d'ailleurs dans la préface, sans se concerter, ils disent des choses qui sont les mêmes aussi. C'est-à-dire que, évidemment, on sent bien que c'est des individus, mais en même temps, sur ce qui s'est passé par rapport aux trahisons des prétendus zadistes unis du début, ceux qui ont réussi à bien tirer leur épingle du jeu auprès de la préfecture, tout ce qui est du domaine de ce qu'ils ont eu à subir, ça, en revanche, ils racontent la même histoire. Enfin, je veux dire, à très peu de choses près, c'est la même histoire. Donc, c'est différent, mais en même temps, ils ont subi la même chose, à savoir qu'ils ont été traités comme de la merde, tous aussi différents étaient-ils les uns des autres. Il y a eu un prix de groupe pour tout ce qu'on appelait les schlags, à savoir, ce qu'ils appelaient les schlags, à savoir des gens qui n'étaient ni la classe laborieuse, pour citer un truc que je viens de voir dans un magazine de syndicalistes, qui vantent. Enfin, tu vois, c'était des gens qui n'existent pas, quoi, qui n'ont pas de. Donc, ils ont été tous traités de la même manière. Et de toute façon, il est évident que des gens comme ça ne pouvaient pas avoir de succès auprès de la préfecture en présentant un projet. C'est l'évidence même. Donc, ils sont très différents les uns des autres, avec des parcours différents. Mais ce qu'ils ont subi de la part des traîtres de la ZAD, ils racontent la même histoire sans se concerter. Ce qui est quand même très édifiant en soi, quoi.
Ben, c'est un aspect important du livre, évidemment, tu as raison. Et l'autre aspect qui me paraît important aussi, c'est la démarche entreprise par rapport à l'histoire. Parce que bien souvent, l'histoire, avec un grand H, elle est souvent écrite par les vainqueurs. On va dire, tout au long de l'histoire, tout au long des conflits sociaux, des luttes, des résistances. Et là, ça échappe pas, je dirais, à cela. Et je dirais que la démarche du livre rejoint aussi une démarche qui nous est commune, si tu veux, à travers tout un tas de choses qu'on a pu dire ou faire ici. Je pense qu'il y a une démarche commune quand on parle, par exemple, des Lascars du LEP électronique. 86, c'est l'histoire d'un grand mouvement étudiant, dont c'est Lascar du LEP électronique, et les lycéens du technique vont être les oubliés de l'histoire. Quand, par extension, vous parlez de la lutte des intermittents et précaires, on avait vu comment, dans cette lutte-là, il en ressort glorifié les intermittents et les précaires qui sont oubliés. Et je pense donc que écrire ces histoires-là...
Non, excuse-moi, c'est pour préciser, les intermittents et précaires ne sont pas oubliés, c'est pas le même type d'intermittents, c'est des gens qui sont socioculturellement, n'ont pas le même statut, mais techniquement, des deux côtés, tu peux avoir des intermittents du spectacle et des précaires du spectacle, donc c'est pas la précarité qui fait la différence, c'est le statut socioculturel.
Je suis d'accord.
Mais c'est pas exactement pareil que de dire on a oublié les intermittents et précaires, parce que ceux du spectacle ne se sont pas oubliés eux-mêmes, mais la différence avec ceux qui, par exemple, étaient intermittents ou précaires, mais pas du spectacle, c'est ceux-là qui étaient oubliés pour des raisons socioculturelles, pas de statut économique. Oui. C'est important de faire cette précision.
T'as raison de l'idée intermittent. Oui, mais t'as raison de le préciser, et ça rejoint une partie de l'introduction du livre, qui insiste ou qui dit comment ceux-là même qui vont trahir, on va dire, la ZAD, eh bien, ont des relais médiatiques, des relais politiques, des relais institutionnels, des relais universitaires. Mmh. Et ça me paraît important, là aussi, de le dénoncer. Et puis surtout, dans ce livre, ce qui est à la fois émouvant, mais pas seulement émouvant, parce que bon nombre d'articles font preuve, je trouve, d'une compréhension, d'une analyse de la situation, d'une analyse de l'autoritarisme, de l'analyse de l'autorité du pouvoir, qui sont extrêmement forts, qui sont bien dits, qui sont puissants, et en ce sens, c'est aussi, je pense, très très intéressant, parce que cette histoire de cette trahison, c'est aussi des histoires que, eh bien, on a déjà pu vivre ailleurs.
Nicolas, je voudrais savoir si toi, moi j'ai été vraiment pas seulement intéressée, c'est très intéressant, j'ai jamais lu un livre comme ça, jamais, franchement pour moi c'est le livre qui m'a le plus parlé, le plus intéressé et le plus touché aussi effectivement, mais est-ce que, Nicolas, toi aussi tu l'as ressenti de cette manière, que c'est pas seulement intéressant, que c'est... moi je sais pas, j'ai envie de les connaître ces personnes qui, à part une personne qui s'exprime, un universitaire qui juge tout ça du haut de son mirador, une espèce d'intellectuel et tout, qui d'ailleurs critique les zadistes eux-mêmes, à part ce passage-là, ils m'ont tous, même quand j'étais pas d'accord, j'avais envie de les connaître, j'avais envie de leur parler, et je leur souhaitais vraiment le meilleur. Je me retrouvais vraiment dans eux, justement parce que c'est ni des intellos universitaires, ni la classe laborieuse. Donc quelque part, c'est un créneau qui est relativement rare, qui est carrément rare, mais je dis relativement, c'est une façon de parler, mais c'est très très rare de voir mis en avant des gens comme ça, parce que ils sont mis à l'écart systématiquement, y compris dans les milieux militants. Donc c'était là qu'ils allaient se retrouver, et dans leur façon de s'exprimer, pour moi c'est pas seulement intéressant, c'est très touchant. Enfin, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça.
Voilà, c'est le but de ce bouquin, qui dit aussi que la parole, cette parole-là, elle est aussi parfois difficile, parce que simplement, des fois, il explique qu'il y a des gens qui ont mis des années, même avant de parler, d'en parler, pour différentes raisons. Et alors, par rapport, déjà par rapport aussi à ce titre, quoi, Histoire au pluriel, effectivement, c'est des histoires parmi plein d'autres. Hein. C'est pour ça qu'évidemment, il y a tellement de gens qui sont passés par la ZAD et de choses qui se sont faites qu'on ne pourrait pas tout raconter. Donc c'est des histoires et en opposition, donc ils reviennent, forcément, il y a des qui reviennent sur des faits qui ont eu lieu et qui reviennent parfois à plusieurs, évidemment. Et en opposition à toutes ces histoires au singulier, histoires de la ZAD, qui sont racontées, donc on va. Enfin, j'en ai vu un exemple qui était caricatural presque, mais c'était ça fait l'histoire donc de la victoire. Et c'est ça commence même. Alors c'est en plus c'est très académique et c'est fait par des universitaires. Alors ça plaît beaucoup à certains et ça commence carrément au Moyen Âge, quoi, tu vois. Mmh. Et c'est un livre. C'est un livre qui a été vanté par le monde diplomatique, par Ciné Mensuel, par CQFD, et qui est qui était paru dans le Nouvel Observateur également. Et ils avaient mis ces gens-là sur leur site fièrement cet article du Nouvel Observateur qui était carrément intitulé « Bilan d'une utopie concrète ».
Wow.
Voilà, donc c'était en 2019. Hein, la ZAD a été et continue d'être une utopie concrète. Alors bon, quand on lit ce bouquin, justement, dont on parle, bonjour la gueule de l'utopie. Hein, et avec un dessin ou un adulte qui parle à des enfants assis dans l'herbe et puis qui leur dit, voyez, bon, on va attaquer l'histoire du 21e siècle, un gros morceau, là, c'est l'événement qui a fait basculer le monde occidental.
Non.
Carrément. Et c'est-à-dire la reconstruction, l'extension de la ZAD durant l'été 2019. Donc après, voilà, toutes les saloperies qui ont été faites et la remise à l'ordre de la ZAD.
Bah oui, il y a eu des. De toute façon, tout ce qu'on peut voir comme échange. Alors en plus, ils sont extrêmement insultants, évidemment, avec les déviants, comme sont toujours ceux qui ont des, qui finalement ont remporté un peu le pompon. Et puis c'est quelque part un mépris qui renvoie au mépris que ont les gens comme il faut par rapport à ce qu'on appelle les schlags, et en particulier justement l'idée que c'est pas des travailleurs. Bah, en effet, tu te dis les gens qui atterrissaient là parce qu'on voulait de nulle part, ou les primitivistes par exemple qui se sont fait évidemment dégager, qu'est-ce que tu veux qu'ils présentent comme projet viable à une préfecture, tous ceux qui avaient comme projet de à plus ou moins long terme la mort de l'État, tu vas pas présenter ça comme projet non plus à la préfecture. Donc tout ça c'était des losers, des pouilleux, enfin bon, mais vraiment hein, c'était des termes comme ça qui étaient utilisés, qui couraient après l'échec, la victoire ils supportaient pas. Mais quelle victoire? En quoi c'est une victoire? Il a été démontré, en plus, il a été démontré que certains éleveurs bio, par exemple, vendaient leur lait à Lactalis. Enfin, je veux dire, mais le côté, les parcelles bio, c'était des gens, tout ce qui pouvait être des trucs d'ailleurs autour du travail, c'était des travailleurs. Donc, c'est bien vu, ça, si tu veux. Et tout le côté aussi, tu plais à la population locale, tu plais à tout le monde, tu plais aux médias, tu plais à tout le monde en étant... ça me fait penser à la communauté où ils espéraient plaire aux gens du village d'à côté, en démontrant bien que, justement, ils étaient des gens comme il faut, mariés, des enfants, et puis travailleurs. Donc, le côté, les gens marginaux, tout ça, ben, c'est leur notion de ce que doit être l'ordre, d'ailleurs. Hein, pour l'anarchie qui serait l'ordre, et ben, l'ordre, c'est l'ordre de l'idée de on n'a pas besoin de gens comme ça, à quoi qu'ils servent d'abord. Donc, ils ont été carrément sacrifiés, et c'était logique. C'était logique qu'ils le soient. Moi, vraiment, le truc qui m'a parlé dans ce bouquin, c'est que ça renvoie à d'autres expériences qu'on a pu avoir dans des organisations, dans des collectifs, parce qu'on en a traversé quand même beaucoup, y compris même des fois dans des squats, malheureusement, où on voit vraiment une espèce de guerre entre les bons chics, bon genre, un peu, chacun à leur manière, et puis des gens qui sont considérés comme étant des marginaux, enfin ce qu'ils appelaient effectivement des schlags. Et je suis, j'aimerais tellement, enfin, tu parlais des lascars, mais ça me fait le même effet. Les lascars, j'aurais tellement eu envie de les rencontrer, j'aimerais tellement savoir ce qu'ils sont devenus et savoir qu'il leur est arrivé que du bien, parce que au-delà de les trouver lucides, intelligents, sur mes bases politiques et éthiques, je les trouve tellement... ils me touchent, quoi, vraiment. Je me reconnais dans en partie, en tout cas dans eux, et ça m'arrive tellement rarement. Je me sens tellement loin, généralement, des gens, je trouve tellement pas ma place. Et là, sur tous ces gens qui pensaient avoir trouvé une place où au moins on les traite pas comme simplement des déviants qu'il faut censurer et exclure, ben, qui croyaient avoir trouvé ça, puis finalement non. Ça me parle vraiment, ça me touche, ils me touchent, ces gens. Leur manière de s'exprimer, tout ça, c'est pas des gens qui se la pètent. Et qui c'est qui se la pète? Des gens qui sont habitués à être bien considérés de leur entourage, de leurs collègues. Soit que c'est effectivement, premièrement, évidemment, tous les universitaires, mais aussi les gens qui sont des vrais bons travailleurs, que ce soit de la terre, ou puisque là c'est plutôt la terre, ou que ce soit des ouvriers, mais au moins c'est des bons travailleurs. Alors que les Lascars étaient de la classe ouvrière, mais ils voulaient pas aller à l'usine. Ils voulaient pas se définir. On a une copine du groupe qui était d'origine ouvrière, qui a fait un boulot de merde qui est réservé à des gens de sa classe. Elle voulait pas qu'on la définisse comme ça. Bah, pas plus que t'as envie de faire partie de la classe des femmes violées. Je veux dire, c'est une violence qu'on te fait que tu sois obligé de travailler. Donc tu veux pas être défini comme une victime contente de l'être quand même. T'es pas content, t'es comme les Lascars. Peut-être que ça te tombera dessus, mais au moins tu revendiques pas ça, quoi, putain. Donc, je veux dire, c'est ça qui me touche vraiment, quoi, dans les... Je me dis, c'est des gens, même des fois je suis pas d'accord avec des trucs qu'ils disent, mais je sens des gens en qui je pourrais me retrouver, avec qui je pourrais dialoguer. Oui. Nicolas? Non, tu le vois comme ça un peu?
Oui, moi j'entendais quelqu'un qui parlait de ce bouquin et qui commençait par dire qu'il l'avait lu avec beaucoup de plaisir. C'est pas le mot qui me vient, moi, en lisant ce bouquin. Personne. C'est effectivement très très intéressant. C'est très prenant, ça c'est...
C'est touchant quand même aussi.
Et puis c'est aussi, voilà, tout ce que tu as dit, c'est très, effectivement très touchant. Mais c'est même plutôt ça fout la haine souvent, plus que
ouais,
fout du plaisir, même s'il y a aussi des choses positives. Et malgré tout, il n'y a pas que des choses négatives quand même. Mais enfin, là c'est pareil, cette personne qui d'ailleurs... Tu t'es intéressé de loin à la ZAD et ce qui s'y était passé. Trouvais que ce qui retenait et ce qui lui avait procuré beaucoup de plaisir, c'était qu'il y avait eu des moments merveilleux. On est encore dans le dans l'outrance, quoi. Des merveilleux où l'unité était totale. Alors que bon, il s'agissait des moments où, alors en 2012, au moment des premières expulsions, où déjà ça n'avait rien de merveilleux puisque les flics étaient là et enfin avec leur violence et puis la destruction des maisons, etc.
Donc, il en est question d'ailleurs dans le bouquin des violences, parce que au-delà des trahisons internes, il y a eu quand même la violence de la police qui les ont comme, enfin c'est pas un très bon souvenir effectivement.
Voilà, ça n'avait rien de merveilleux et puis. Même si c'était à ce moment-là, il y avait une certaine unité, mais qui de toute façon était une unité, enfin, un moment où éventuellement des intérêts coïncidaient, quoi, mais qui n'était pas une unité réelle, puisque des gens avaient un objectif qui n'était pas celui de tout le monde, qui était le leur, et qui était caché derrière des intentions affichées, et qui a amené après à toutes les trahisons qui ont eu lieu.
Bah, c'est ça qui est douloureux aussi dans ces histoires. C'est un peu, je dirais, comme, tu sais, comme si jamais une femme qui a fini par être battue, parce qu'ils ont été jusqu'à des violences physiques de la part de ceux qui voulaient leur petit bout de gras, hein, qui voulaient tirer leur bénéfice personnel de cette situation. Ben, dire que si jamais tu te dis, au début, on a eu des instants merveilleux avec le mec qui a fini par me cogner, malgré tout, ça entache un peu quand même tu te rappelles pas les moments merveilleux sérieux, autrement que comme quelque part le point de départ de ce qui a été finalement quelque chose de tout à fait dégueulasse, quoi. Si tu veux, t'es obligé avec le recul de te dire que ce qui te semblait merveilleux, ben c'était une illusion. Voilà. On va peut-être faire une petite.
On peut faire une petite pause, oui, si vous le souhaitez. Alors on va retourner sur cette petite sélection avec un autre groupe. Alors Nicolas, tu peux en dire un petit mot parce que je vois que ça s'appelle CGT PLS.
Ça monte pas la CGT, j'espère.
C'est non, quoi, ça te dit quelque chose ? Non, c'est le nom du groupe, tout simplement.
Chose, c'est pas directement en lien avec la ZAD, du coup, mais bon, c'est pas sans rapport, on va dire. Non, c'est un groupe, alors CGT PLS, je me rappelle plus exactement, PC pour punk, ça n'a évidemment aucun rapport avec le syndicat.
Ah, je me soulage.
Sac de chourses, ça s'appelle la chanson, donc je le montre, sac de course et sac de chour. Et c'est un groupe en fait qui a co-animé une émission récemment avec Carapatage et qui a chanté plusieurs de leurs chansons en direct dans les studios ici même. Donc là, j'ai repiqué une de leurs chansons.
Tu peux dire un petit mot sur Carapatage, quand même ?
C'est l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire, l'émission donc contre les prisons et tout ce qui va avec, quoi.
Et c'est tous les ?
Premier et troisième mercredi du mois.
Voilà, vous pouvez retrouver les podcasts sur anarchiste.info. Voilà.
Entre autres.
Donc, on écoute ce groupe et donc cette chanson Sac de Chourse.
Et mon sac de chourses, fait les boutiques tous les jours. Si j'ai vu le shop, il faut que je cours. Sac de chourses est bien trop lourd. Tu n'auras qu'un retour. Biocop ou un carrefour. J'paierai pas au dégât, j'paierai pas de loyer. J'paierai pas mon tofu, même si je me fais péter. J'paierai pas ma doudoune, j'paierai pas mes outils, ni ma chaîne de vélo. Mais SVP me volait pas mon super beau vélo. On défonce tous les antivols, j'ai bien fait de pas suivre à l'école. Mon prof disait tu seras chômeur, et ça m'en remplissait de bonheur. J'paierai pas au D4, j'paierai pas de loyer, j'paierai pas mon tofu, même si je me fais péter. J'paierai pas ma doudoune, j'paierai pas mes outils, ni ma chaîne de vélo. Mais SVP me volait pas mon super beau vélo. J'avais les mains dans les poches, y'a trop de trucs qui en débordent. Je vole du luxe par flamboyance, dans mon frigo c'est l'abondance. Du Biocop et course poursuite avec les cops. J'paierai pas au D4, j'paierai pas de loyer, j'paierai pas mon tofu, même si je me fais péter. J'paierai pas ma doudoune, j'paierai pas les outils, ni ma chaîne de vélo. Mais SVP me volait pas mon super beau vélo. Maintenant je vis du RSA, mais ça se passe quand tu peux péter. Jamais je retourne dans le salariat. Le RSA, c'est le luxe quand t'es un rat.
Oui, quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé dans le bouquin, parce que c'est aussi une question récurrente et c'est logique qu'elle le soit, et elle est récurrente aussi pour nous qui avons vécu des situations, on va bien le dire, équivalentes de gens que tu crois être tes alliés et que tu te rends compte qu'en réalité on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, et que quand eux sont pas sur la même longueur d'onde, ben c'est eux qui ont le pouvoir, donc c'est eux qui te censurent ou t'excluent, quoi, tu vois. Le fait d'être considéré comme le déviant de gens comme ça, et donc comment on peut faire face à des abus de pouvoir en interne. Mais par ailleurs, la question aussi, donc on va peut-être les prendre dans l'ordre, la question aussi de qu'est-ce qu'il pouvait faire face à la répression d'État, hein, tout simplement. On peut peut-être commencer par la répression d'État, et malgré tout, ils ont quand même résisté un bon moment. Même si ça paraissait impossible, mais eux-mêmes ont jamais cru que à long terme ils pouvaient foutre par terre le capitalisme et le principe même de l'État. Enfin, ils n'étaient pas aussi nigauds que le prétend l'intellectuel qui s'exprime à un moment donné. Même quand ils allaient ne serait-ce qu'à Nantes, ils savaient très bien qu'on ne vient pas à bout du capitalisme en faisant des alternatives en acte. Ils n'étaient pas stupides comme ça. Mais malgré tout, sur le fait de pouvoir au moins rester sur cette zone, c'était le plus longtemps possible. Mais ils ont été confrontés à un moment donné. Ils ont quand même résisté très très longtemps. Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué aussi, parce que je m'étais pas rendu compte de ça auparavant, c'est qu'en réalité, s'il y a pu avoir une ZAD, c'est parce que le prédateur, comment il s'appelait déjà, c'est pas Vinci, c'est un nom comme ça, oui. Le prédateur qui avait mis sa patte sur cet endroit-là, l'a gardé pour plus tard. Si ça avait pas été le cas, un autre prédateur s'y serait mis et aurait bétonné simplement la côte comme ça s'est fait partout ailleurs, où on aurait fait ce qu'il avait voulu, comme c'était un projet à long terme. Du coup, c'est comme les squats où on peut aller le temps que le propriétaire décide quoi en faire. C'est quelque chose qui peut être que de toute façon temporaire, et c'est pas du tout une zone qui est laissée à ta disposition. C'est le fait que le prédateur en question a décidé de faire quelque chose de ça, mais plus tard. Mais ils ont quand même résisté beaucoup, même si bien sûr à long terme c'était pas envisageable que pour autant ça soit comme on peut le dire en rigolant, que ce soit le visage d'Astérix et puis que ils allaient foutre la misère à l'État, au capitalisme et à la police. Mais quand même ils ont bien résisté. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vu là, cet aspect résistance.
Ben, ils font preuve d'une certaine d'un certain courage déjà, d'un certain sens aussi de l'organisation. Ah oui, je trouve, faut bien le souligner, et le résultat est là aussi. Le fait est qu'ils résistent, et ils résistent très très longtemps. Je trouve qu'ils ont fait preuve vraiment d'une grande capacité d'organisation, en fait. Enfin, c'est décrit tout au long du livre, et c'est assez intéressant. Après, l'autre aspect du livre, c'est que évidemment, il n'y avait pas que les flics. Il y avait aussi l'ennemi intérieur.
Oui, mais pour rester sur l'idée des flics, avant de passer à l'idée de l'ennemi intérieur, pour rester sur l'idée des flics, il y avait les raisons pour lesquelles ils ont pu résister plus que, par exemple, des squatteurs. Et ça, c'est bien évoqué, je trouve, parce que là aussi, ils ne sont pas du tout dupes de ça. Quand des gens disent « Ah ouais, mais c'est viriliste de vouloir résister à la police, même dans les manifs, en faisant, par exemple, des cortèges de tête ou d'une manière générale, quoi, en étant dans la lutte », ils sont bien conscients, et plusieurs le disent, il faut être jeune et en très bonne santé. Hein, parce que, et c'est pas du validisme, je veux dire, on ne va pas se raconter d'histoire. Par exemple, le fait que c'était un squat, c'est plus dur de résister que sur une zone comme celle-là, où ils pouvaient jouer à cache-cache, où ils pouvaient, par exemple, ils allaient dans les arbres, pour pouvoir, malgré tout, aller d'arbre en arbre, le genre de trucs qu'ils faisaient comme ça, même le fait de courir, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était des gens qui étaient globalement jeunes et en très bonne santé. Enfin, il valait mieux, quoi. Et donc, en même temps, moi, personnellement, je trouve que on va pas attendre que la totalité de la population soit en forme pour lutter, pour commencer à lutter. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens comme ça. Comme une fois sur un squat, ça a duré longtemps et du coup ça a permis d'alerter la population alentour, parce que un jeune homme était grimpé sur le toit et les pompiers n'arrivaient pas à le gauler, quoi. Donc du coup ça a pris plus de temps que prévu. Je vais pas aller lui dire quoi, tout le monde peut pas aller sur le toit, moi la première, t'aurais pas dû y aller. Donc c'est vraiment très bien qu'il y ait des gens comme ça, mais ils sont conscients du fait que même au point de vue santé, même vivre sur la ZAD sans parler de la répression était quand même pas du nougat, quoi. Je veux dire, faut pas être trop fragile. C'est pas pour les malades ou les gens âgés ou les gens qui ou les infirmes, hein, il n'y a pas de mystère. C'était quand même, c'est quand même un truc qui était pas évident. Je veux dire, de vivre, bah, par exemple, l'hiver, dans le froid, l'humidité, c'était pas évident du tout. Donc, il y a quand même aussi cet aspect-là, le fait que, alors, ça avait les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, c'est que du coup, il pouvait plus facilement jouer à cache-cache et emmerder les flics. Par exemple, il y a des moments où les flics, ils pouvaient pas, ils étaient embourbés. Tout simplement, quand ils voulaient y aller avec des bagnoles ou des trucs comme ça, ils étaient embourbés et ils n'étaient pas non plus équipés même pour marcher dans la boue. Donc, y avait des aspects comme ça. Et en même temps, ben, le problème, c'est que, qui s'est quand même posé, et là, ça peut nous faire venir quand même à l'idée des traîtres, c'est que du coup, c'était ouvert aux quatre vents. Je veux dire, on peut imaginer, même si c'est très rarement le cas, qu'un squat décide d'avoir un noyau dur qui ne laisse pas n'importe qui rentrer et participer aux décisions et essayer de se l'approprier, même si c'est rarement, enfin, trop de fois, on a vu des gens s'approprier, hein, même un squat, mais c'est possible quand même de dire que tu vas quand c'est un lieu précis. Mais là, bah, comment on aurait empêché à un moment donné que soient attirés des prédateurs, enfin des gens qui se disent, tiens, ça serait bien l'occasion d'avoir mon petit lopin bio où je pourrais me faire mon beurre. Enfin, je veux dire, et puis pour les schlags, on les mettra en avant pour faire un genre rebelle auprès d'un côté, mais on s'en débarrassera quand il sera question d'officialiser notre statut d'agriculteur, par exemple. Donc d'éleveurs, etc. Bah, je pense que c'était un petit peu ça aussi, à la fois la qualité pour lutter contre les flics, mais le défaut pour empêcher des traîtres de se pointer, effectivement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je sais pas toi, Nicolas, par rapport à ça.
Bah, le fait que c'était un très grand territoire aussi, qui était pas facile d'accès, facile pour les flics, qui facilitait pas leur démarche, leur manœuvre. Que ce soit à pied ou avec leur véhicule, effectivement. Et puis, même au tout début, il y a des histoires, là, des gens qui racontent qu'ils étaient là au tout début, et qu'à quelques... Enfin, c'était une poignée, quoi, d'occupants. Allez. Et qui arrivaient, donc, avec l'étendue de la ZAD et les conditions d'accès plus difficiles pour les flics, et qui, à quelques-uns, arrivaient à leur tenir tête ou à les empêcher de faire leur travail, eux, ou les flics, ou tous les gens qui venaient pour faire le travail de cadastre et compagnie, je sais pas quoi. Et puis c'est aussi une lutte, on voit, je pense, c'est dans ce domaine-là comme dans d'autres, et ça ressort aussi, c'est beaucoup d'inventivité, de créativité, d'ingéniosité, qui se manifestait, qui a eu lieu, et puis voilà, comme disait aussi, évidemment, beaucoup de résistance et de courage et de par rapport à tout ce qui s'est passé, et enfin toute la violence des flics qui en sont venus et qui outre les violences physiques et qui ont détruit aussi des lieux d'habitation et qui ont aussi resté des semaines et des mois sur place à gazer les gens pendant des journées entières, etc. Et puis aussi mais c'est aussi, pour beaucoup, c'est aussi des gens qui, effectivement, se faisaient pas trop d'idées, parce que c'est aussi des gens qui avaient déjà eu affaire, hein, aux flics, en général.
Oui, c'est beaucoup de gens qui étaient des nomades, qui avaient déjà connu d'autres ZAD, d'autres squats, enfin, d'autres, voilà, beaucoup de, qui étaient vraiment un peu des, effectivement, c'était des gens qui étaient vraiment ce qu'on peut appeler des marginaux, des gens qui n'ont pas, effectivement, qui auraient sûrement pas eu le statut ni d'un télo, diplômés, ni de classe laborieuse. C'était des gens qui n'avaient aucun statut particulier et qui se retrouvaient là, mais qui s'étaient déjà retrouvés ailleurs. Et donc en général, t'es mal considéré partout où tu vas, quoi. Donc comme ils étaient déjà allés dans plein d'endroits, t'as raison, ils pouvaient pas. Ça n'a pas changé grand chose sur le fond. À part que cette lutte-là a été plus médiatisée que d'autres, quand même, faut le dire. Enfin, moi je trouve, hein. On a rarement vu d'autres luttes. C'est vrai qu'il y a eu d'autres ZAD, d'autres luttes. C'est rare que ça ait été autant médiatisé que la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Déjà, elle a duré quand même très très longtemps. Donc il y avait un peu ça aussi, je pense.
Alors aussi, il y a eu Au moment des premières expulsions, il y a eu aussi un fort mouvement de soutien qui s'est manifesté un peu partout, avec des comités de soutien un peu partout, des gens qui sont venus, beaucoup d'aide matérielle, des actes de solidarité, etc. Donc,
Nous-mêmes, d'ailleurs, on était à Notre-Dame-des-Landes de Paris, à un collectif Notre-Dame-des-Landes Paris, effectivement, qui s'était organisé en soutien à Notre-Dame-des-Landes.
Oui, et puis un soutien plus général, aussi dans la population, qui était une, alors pas contre le monde de l'aéroport, mais au moins contre l'aéroport.
Oui,
qui...
forcément. Personne n'est heureux de voir arriver un aéroport à côté de chez lui, il faut le dire.
Et puis, mais les gens aussi dont on parle, c'est surtout les gens donc de l'Est, quoi, de la partie Est de la ZAD, c'est-à-dire la zone non motorisée qui ont aussi dû lutter contre les flics et tous les citoyennistes, mais aussi qui ont dû lutter sur place, y compris contre d'autres zadistes, pour rester là et maintenir cette zone non motorisée et vivre et continuer à rester là, quoi.
Et cette histoire contre l'aéroport et son monde, il y a le et son monde qui n'avait pas l'air très très unanime.
C'était à la fois, ça pouvait être des agriculteurs qui lorgnaient sur les terres, les terrains évidemment, qui auraient bien voulu motoriser pour et défricher et abattre des arbres pour faire les hectares de culture. Ça pouvait être, mais aussi des zadistes qui avaient d'autres projets. Et c'est pas les expulsions et les violences, n'ont pas été le fait seulement des flics. Donc c'était vraiment une résistance qu'il fallait. Il y a eu des attaques aussi violentes qui avaient lieu de ce côté-là, quoi.
Donc Laurent. Après, on pourra parler d'un autre aspect. Enfin, si tu as quelque chose à ajouter, toi, Laurent ? Non ? Parce qu'après, je parlerai bien d'un autre aspect que j'ai trouvé aussi, qui m'a beaucoup questionné, c'est que même des années plus tard, ils se demandaient qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. D'une part, bon, évidemment, par rapport aux flics, c'est déjà merveilleux qu'ils aient réussi à tenir tout ce temps-là, mais surtout par rapport aux traîtres, comment est-ce qu'on peut faire face à des situations pareilles, puisque elles sont... moi, je crois que j'ai jamais traversé aucun collectif, aucune organisation, aucune structure où la question de quelques autoritaires qui essayent de prendre, et qui arrivent généralement à prendre le pouvoir, ne se soit pas posée. Et donc, ils disent que même des années plus tard, ils continuent à se prendre la tête et à en parler et à s'interroger. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Où est-ce qu'on a merdé? Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Donc, je pense que c'est une question que ça pose quand même très, 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 très intensément, le bouquin.
Ouais. Donc on va écouter maintenant Déterminé, c'est un titre de Stika, et on se retrouve donc dans quelques instants. C'est bien Radio Libertaire et c'est l'émission Lundi Matin.
Dites-leur que c'est pas terminé. Stika, Rock Fit Beat. Parce qu'ils nous mettent la gueule à terre pour mieux nous voir ramper. Noyés sous les factures, comment ne pas finir trempé. La fracture n'est pas que sociale, ma clé vandale, tirer la sonnette d'alarme. Ça fera scandale dans ton JT. Moi, je me sens un rat de laboratoire face à une arme létale. Eux, ils ont le pouvoir exécutoire. Nous, le droit de parloir. Ils font des lois plus vite que la poulouse d'origine contrôlée. Imagine la tolée quand tout devient illégal. Finir tolard, y'en a qui s'y préparent depuis l'âge des cartables. Comme un passage obligatoire, difficile à esquiver parce qu'ils ont tout cloisonné. Verrouiller les portes de la liberté. On n'a pas le trousseau de clé, donc j'ai pas les yeux de biche mais plutôt le pied. Parce qu'on a le choix de marcher ou ramper, se taire ou gueuler. C'est signé à la saignée, on est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé, à ne plus jamais se laisser faire. On est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut truc explosé. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. À ne plus jamais se laisser faire. On est déterminé. Expulsion, perquisition, réquisition, manipulation, incarcération, réinsertion. Ils ont les armes et la manière pour user de la répression. Donc on a l'art et la bannière qui leur mettront des coups de pression. Dans nos obsessions, jamais nous ne cessons de revendiquer dans le caisson. Entre en collision, cède à des mains, zik à des formes. Ma clique à des dents, plus longue que les défenses de l'éléphant. On vient vous mettre au courant. Ils nous prennent pour bouc émissaire en nous offrant des bouquets de misère. De la mise à terre à la mise à mort, et crois pas que j'exagère. Plus d'éther que la norme. Lâche pas, dégainage de vénère. Donc dégageons mort des dégâts énormes pour des ambitions hors normes. On veut atteindre des signes sans se tromper de cible. Relis ta Bible si tu te prends pour Jésus depuis que tu marches sur l'autre. C'est paradoxal de se battre pour la paix. Pas armé, et pourtant on est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. À ne plus jamais se laisser faire. On est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. À ne plus jamais se laisser faire. Jamais résigné, assigné à résidence, on organise la résistance. Même à distance, ils sèment intolérance, surveillance, malveillance, violence, état d'urgence. Faut qu'ils récoltent les conséquences. Désobéissance, autodéfense, dissidence, bilan d'essence. On vient secouer la douce France. La détermination dans le sang, je donne du sens à mon son. Dénonce mensonges et massacre, l'escalade de leur mascarade. Wesh les potos, les camarades, baisse pas les bras, mate autour de toi. T'es pas seul tout dans la bataille, crois pas que t'es pas taille. Éclaire aux grandes instances, coupable de non-assistance. On sait de quel côté vient la violence. On attaque pas, on se défend. Ils font semblant de ne pas entendre. Je le redis avec insistance. On est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. À ne plus jamais se laisser faire. On est déterminé. Parce qu'on avance sur un terrain miné, ça ne peut qu'exploser. Je déterre la mine de guerre pour les déterminer. Dites-leur que c'est pas terminé. À ne plus jamais se laisser faire. On est déterminé.
Radio Libertaire, donc l'émission lundi matin, autour du livre donc Histoire au pluriel de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Ouais, juste un petit descriptif hein, du bouquin quand même. Donc c'est un gros bouquin, il fait 368 pages et il n'est pas si petit, hein, il est un format très correct. Il y a plein de belles photos en couleur. En particulier des trucs de lutte avec les flics, mais aussi de ravissantes petites cabanes de briques et de broc. Moi, personnellement, ça me parle à l'âme, tout ce côté bordélique. Moi, l'idée, l'anarchie, c'est l'ordre. Non. C'est pas comme ça que je vois les choses. Le contraire du chaos, c'est pas l'ordre. Donc, c'est vraiment, ça va bien, d'ailleurs, ces petites cabanes, avec l'idée des gens qui habitent dedans et qui, effectivement, sont pas des gens qui vont donner envie aux gens comme il faut de qui aurait envie de fréquenter des gens qui habitent dans des endroits pareils et tout. Mais c'est absolument intéressant et les photos, il y en a plein en plus. Et tenez-vous bien, ça coûte 10 euros maximum. Mmh. Et c'est un truc très do it yourself. Il n'y a même pas de code barre, faut le dire. Et vraiment, il est très 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 riche, et très fourni.
Et il est diffusé dans des réseaux, on va dire militants, hein, oui, comme voilà. Dans certains lieux de diffusion Publico est l'un de ces lieux de diffusion. Hein, voilà, donc vous pouvez le trouver à Publico.
Il n'y a pas de code barre, donc on le trouvera.
Voilà.
C'est sûr. Donc oui, tout ça c'est très cohérent d'ailleurs. Et donc, moi, il y a une question qui était donc récurrente pour eux, parce que c'est une question qu'on se pose forcément chaque fois qu'on a été confronté à des abus de pouvoir dans des collectifs qui sont censément anti-autoritaires. C'est qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire face à des gens? Enfin, eux, c'était encore pire parce qu'en plus, ils avaient la police et la préfecture de leur côté, donc inutile de dire que les traîtres, ils avaient 400 longueurs d'avance. Ils ont aidé la police à dégager, en particulier la route des chicanes, et il y a des preuves hein, de tout ça. Évidemment, de l'autre côté, à part les injures, ils crient à la calomnie, mais il y a des preuves, je veux dire vraiment. Il y a des communiqués qu'ils ont fait eux-mêmes, qui sont signés de leurs mains, et il y a des déclarations aussi, comme quoi ceux qui n'ont n'ont pas, qui ont été exclus, bah, ils n'avaient pas volé, parce que c'était de toute façon, c'était des losers qui voulaient l'échec, qui ne voulaient pas la victoire. Et puis, le fait qu'ils aient signé un accord avec la préfecture, c'est tout ce qu'il y a d'officiel, c'est tout. Et le fait de dire non, pour nous, une victoire ne peut pas passer par un accord avec la préfecture, parce qu'on était contre l'aéroport, mais aussi contre son monde, ça paraît logique aussi. Mais donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu... Enfin, donc, on voit dans le bouquin, ils se disent, des années après, on se dit, comment on aurait pu empêcher ces trahisons? Et moi, mon avis, c'était qu'il n'y avait rien à faire. Je le pense. Je suis peut-être, je veux pas désespérer Billancourt, mais je pense que, alors, il y avait des trucs peut-être qu'ils auraient pu voir venir plus le coup. Qu'on soit naïf, qu'on se dise que justement toute la grande chanson de Tous ensemble, oui, l'unité, c'est tellement merveilleux. Donc du coup, je reprends l'exemple de la femme battue. Tu veux pas voir qu'en réalité, depuis le début, tu avais affaire à un salopard. Et là, c'était quand même un peu, toute proportion gardée, c'était un peu ça. Ils voulaient pas voir que quand ils croyaient qu'ils avaient des gens qui les acceptaient, qui étaient solidaires avec eux, qui les encourageaient, qu'en vrai, c'était pas du tout le cas. Donc voilà quoi. Mais ils auraient peut-être, enfin malgré tout, peut-être qu'ils auraient pu au moins voir venir le coup un peu avant. Peut-être aussi qu'ils auraient pu prévenir le fait que les outils de communication au moment de l'expulsion ont été confisqués. C'est-à-dire Zad Nadir, par exemple, est un truc qu'il faut éviter comme la peste, parce que c'est quelque chose qui a été totalement récupéré par les vainqueurs, justement. Donc peut-être mettre au point une façon de communiquer sur l'extérieur alternative, puisque, enfin, s'ils avaient vu venir le coup, au moins, peut-être qu'il y aurait eu des trucs comme ça. Mais sur les faits, sur l'expulsion, je vois pas très bien, dans la mesure où c'était quelque chose qui était en accord avec la préfecture et la police, je vois pas très bien qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Ouais.
C'est vrai que en règle générale, les luttes sont toujours pour le moins incertaines. Donc sur la première partie de la lutte.
Pardon, merci Nicolas, j'ai oublié mon micro. Oui, je disais donc sur la première partie de la lutte, c'est-à-dire la première partie du slogan contre l'aéroport. Effectivement, on peut dire victoire. Il y avait l'autre partie, comme tu l'as dit Sylvie, c'est contre l'aéroport et son monde. Et là, effectivement, c'était plus incertain, parce que des luttes victorieuses contre ce qu'on appelle des grands projets inutiles, il y en a quand même quelques-unes qui ont été victorieuses, il faut le signaler. Mais c'est l'aspect là et son monde, et ce que ça signifiait donc sur le site, sur la ZAD, sur Zone, c'était autre chose. Ce qu'il faut avoir conscience, et moi je parlerai pas de traître personnellement, si tu veux, à la cause, parce que quand on regarde le slogan auquel tu faisais référence et qu'on entend souvent dans les mouvements sociaux, à savoir tous ensemble dans la rue à un moment donné, ne signifie pas du tout qu'on est tous ensemble sur les mêmes objectifs. Du tout.
Oui, mais sauf que là, si je dis que des traites, moi je revendique, qu'ils ont prétendu le contraire.
Oui.
Par exemple, non, mais c'est important. C'est que, par exemple, il y a des gens qui croient que les problèmes qu'ont eu les zadistes, c'était avec la FNSEA, le syndicat, principal syndicat agricole, qui était dans le coup, mais qui, dès le départ, a revendiqué sa division. Dès le départ, ils ont dit, nous les zadistes, on est pour les dégager puis prendre leur place. Donc, on ne peut pas parler de traîtrise concernant la FNSEA, ils n'ont jamais prétendu le contraire. Mais les zadistes, que moi, je continue à appeler des traîtres, ont prétendu qu'eux étaient aussi contre l'aéroport et son monde, et revendiquent encore une image de zadistes dissidents et rebelles, encore aujourd'hui. Tu vois, donc, on peut parler de traître à partir du moment où des gens prétendent être de ton côté. Et c'était le cas. Alors que la FNSEA, par exemple, j'aurais jamais eu l'idée de dire que c'était des traîtres. Parce qu'ils ont jamais prétendu le contraire. Mais dire qu'ils étaient contre, qu'ils prétendaient qu'ils étaient aussi contre ce monde-là, bah, par exemple, des gens qui font des alternatives concrètes, des utopies concrètes, des alternatives en actes, ils prétendent qu'ils sont contre, qu'ils peuvent être contre le capitalisme. C'est pas le cas, mais ils prétendent le contraire. T'appelles traître quelqu'un qui prétend qu'il est de ton côté alors qu'il l'est pas. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je n'appellerai pas traître les gens de la FNSEA qui n'ont jamais prétendu ça, et que j'appellerai traître des gens qui prétendent être de ton côté alors qu'en réalité ils sont du côté de tes ennemis. C'est, moi, pour moi, traître, c'est approprié.
Voilà. En tout cas, ils n'étaient pas sur les mêmes objectifs, on peut dire.
En vrai, non. Voilà. Mais je pense que traître, ça leur va comme un gant. Parce que pour moi, on peut parler de trahison et de traîtrise à partir du moment où il y a un décalage entre ce que tu prétends être et puisque tu es en réalité. Un traître, c'est quelqu'un qui, en effet, est en décalage et pas sur les mêmes objectifs que toi. Hein, je veux dire, je ne sais pas, tu es dans la résistance et puis tu as un collabo dans tes rangs. C'est un traître. S'il est dans tes rangs, si c'est quelqu'un de la Gestapo, tu vas pas dire que c'est un traître, mais si c'est ou un milicien, mais si c'est quelqu'un qui prétend être dans la résistance et puis qui cafte et qui trahit, bah voilà, ben oui, tu peux appeler ça un traître. Bien sûr, il a prétendu le contraire, mais c'est un traître. C'est comme ça qu'on appelle ça. Enfin, moi, pour moi, c'est un mot qui me semble tout à fait approprié à ce qu'ils ont fait. Et jusqu'au bout, jusque maintenant. Ils revendiquent encore l'héritage de l'Assad. Donc, c'est des traîtres encore maintenant. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait revendiqué d'être un ennemi. Enfin,
oui.
Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Donc, si, c'est des traîtres. Et c'est encore des traîtres maintenant. Même s'ils prétendent évidemment le contraire. Bah, grosso modo, ce qu'ils disent, c'est que c'était eux les vrais zadistes, et puis que les autres, c'était que des boulets. Ils les ont accusés de tout et n'importe quoi, que c'était des boulets de la lutte, que eux, c'est eux, la ZAD, c'est eux qui la représentent. Et que, oui, ils ont lutté aussi contre l'aéroport et son monde en faisant des projets de capitalisme alternatif, parce que eux, ils l'appellent pas comme ça. Mais ils n'appellent pas ça comme ça, mais eux, ils continuent à... Je vois ça sur des sites militants, des initiatives qu'ils prennent. Et crois-moi, ils continuent à se revendiquer comme étant des rebelles. Ce qui est dingue, quand on y pense, non ?
En tout cas, ce qui est certain, si tu veux, c'est que la conscience, je pense, dans un mouvement, quand tu connais tous ces protagonistes et quand tu connais tous leurs objectifs, quand tu es conscient de toutes les divergences et oppositions qui sont en manifestation, qui se manifestent, je veux dire, tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir, effectivement, pour reprendre ton terme, il va y avoir trahison des objectifs de base. Cette trahison, pour reprendre ce terme-là, elle était obligée, je dirais, par rapport à ce que sont les individus eux-mêmes, ce qu'ils sont intrinsèquement. Quand j'évoquais tout à l'heure des gens parmi ces zadistes, effectivement, ceux qui ont trahi la cause, hein, pour reprendre le terme, donc, qui étaient effectivement ceux qui venaient d'un horizon social quand même particulier, qui à ce titre-là avait donc des soutiens, je le disais tout à l'heure, des soutiens médiatiques, politiques, institutionnels, universitaires, on était déjà dans une forme de lutte assez inégale. Et je pense que peut-être des gens qui nous écoutent et qui se sont retrouvés dans des situations de ce type-là, enfin pas forcément de la ZAD, mais genre où on s'organise avec d'autres gens sur des bases qui au début ne sont pas forcément les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes, mais il y a soi-disant une certaine unité qui doit se manifester, un tous ensemble qui doit se manifester, que bah oui, la trahison peut arriver à un moment donné ou à un autre, et que sa parole, c'est-à-dire la parole des vaincus de l'histoire, elle est souvent bien bien faible à côté de ceux qui ont la maîtrise de la parole, notamment de l'écrit, etc., et qui sont et qui bénéficient de tout un tas de réseaux institutionnels ou autres que j'évoquais. À titre d'exemple, il y a un film qui va sortir, je t'en parlais, Sylvie, que je commence à voir programmé dans certaines salles, qui s'appelle Direct Action, qui donc est consacré donc à la ZAD. Et dans un dernier Monde Libertaire, il y a Jean-Luc Sahagian, qui d'ailleurs a fait un article vraiment élogieux, hein, du livre Histoire de la ZAD, qui revient aussi sur ce film-là, donc Direct Action, qui va sortir. Et il décrit la salle Alors déjà, l'avant-première, elle est organisée par une grande école. C'est présenté par un doctorant en anthropologie. Il dit que la salle était pleine d'étudiants, d'artistes, de sociologues. Il dit donc d'une bonne bourgeoisie de gauche qui était présente. Et il dit que rien que ça t'éclaire de à qui s'adresse le film et de ce que va dire le film. Donc les oubliés de l'histoire, les vaincus de l'histoire, eh bien leur parole elle est toujours faible, bien évidemment, d'où encore le grand mérite de ce livre là. Mais cette parole elle est bien ténue, elle est bien faible souvent. Et je résumerai, moi, tu vois, je sais pas, enfin oui, j'en suis sûr que vous aussi, c'est pareil. Le sentiment que j'ai face à tous ces cas qu'on a pu évoquer aujourd'hui ou dans d'autres émissions de lutte, etc., c'est que pour moi, une lutte ou une société, quel que soit son nom, son qualificatif, etc., qui laisse sur le bord de la route des individus, eh bien, ne mérite que d'être combattu et dénoncé. Et pour moi, c'est quand même ça que je ressens très très fortement dans cette histoire-là, dans ces histoires-là, etc. C'est, eh bien, grosso modo, le triomphe dans un moment de lutte qui se veut émancipateur de ce qui est la norme dans la société, c'est-à-dire les puissants, ceux qui constituent l'élite, qui ont tous les réseaux médiatiques, etc., nécessaires, écrasent les autres, les laissent sur le bord de la route, et ça, il faut le dénoncer. Et quand en plus ces gens-là portent un projet de société, eh bien cette société à laquelle ils aspirent me fait frémir, parce que je suis
elle est déjà là, rassure-toi.
Elle est déjà là, mais je suis persuadé que dans cette société future qu'ils imaginent, ce monde nouveau dans lequel ils se projettent, etc., eh bien les marginaux, les schlags et autres resteront là encore sur le bord de la route.
Oui, encore sur le bord de la route, c'est encore trop près, il faut qu'ils dégagent encore plus loin. Les cabanes au bord de la route ont été dégagées par, voilà, par les traîtres, effectivement. Effectivement, pour crier victoire, il faut oublier tous ceux qui ont dû dégager, hein, qui n'ont pas pu rester. Et l'opposition, c'est dès le départ, enfin, c'est vrai que ça se voit, on parle de ces cabanes qui... aussi sont aussi diverses que les individus qui les habitaient, et à côté de ça des maisons en dur avec électricité, avec beaucoup de moyens de construction, des moyens de fabriquer des grosses constructions, des moyens financiers, des moyens de communication, des relais médiatiques, etc., et pourtant face à ça aussi des gens avec les moyens du bord qui font des cabanes de briques et de broc, qui font des chicanes qui ont une grosse efficacité, qui ont été enlevées après pour faciliter l'accès aux flics par les autres, mais qui ont pendant longtemps été très efficaces, des tours de 15 mètres de haut, enfin voilà, des, quand même des choses assez remarquables, et avec les moyens du bord,
dans les arbres aussi,
dans les arbres, dans les arbres, ouais, des... Et puis, de trahison qui sont là aussi dès le départ, puisque, enfin, voilà, des gens qui commencent par effectivement utiliser en fait les autres, on peut dire ça comme ça, puis qui les envoient se faire grenader, arrêter sur les barricades, qui se servent de cette image-là, puis après qui énoncent des projets. Est-ce qu'on m'entend bien?
Laurent, est-ce qu'on l'entend bien?
Ah bah oui, complètement, oui, okay. Non, tout est nickel.
Qui parlent de résistance et puis qui vont faire des négociations avec l'État, qui s'accaparent les moyens de communication, qui s'accaparent les moyens d'organisation petit à petit aussi, qui remplacent les réunions qui se faisaient auparavant par des AG institutionnalisés, qui prétendent décider...
Auxquels ils invitent qui y veulent, évidemment.
Voilà, qui prétendent... que se décide collectivement des décisions qui sont prises par certains, quoi, et qui sont présentées comme des décisions collectives, unanimes.
Et surtout des barricades, juste une parenthèse, des barricades. Les barricades, à partir du moment où ils ont commencé à dealer avec la préfecture, ils ont décrété qu'il fallait détruire les barricades, qu'il fallait pas faire de barricades parce que ça attirait les flics. Donc ils ont empêché par tous les moyens le fait de faire des barricades quand la police est intervenue. Enfin, continue, excuse-moi. C'était sur les barricades. Pour dire jusqu'où allait la traîtrise des gens en question.
On ne négociera pas, puis on va négocier. Après, tout et n'importe quoi, on va faire une structure légale, mais en fait, qui cachera des illégalités derrière. Et puis, pas de négociation s'il y a des expulsions. Et puis, tout ça, évidemment, c'était que du vent. Et qui ne sont pas contentés de ça, qui ont aussi participé effectivement activement. Alors qu'ils se sont associés avec les organisations syndicales, citoyennes, et pour négocier avec l'État. Donc négocier, ça veut dire faire des concessions. Donc, mais qui ne sont pas tellement des concessions de leur part, puisque c'était des gens qui voulaient voir partir de toute façon. et qui ont participé, qui ont eux-mêmes montrer leur gage de bonne volonté, entre guillemets, à l'État, en expulsant eux-mêmes des gens de la ZAD.
D'autant plus, ils les ont expulsés volontiers, que c'est dit dans le bouquin, mais c'est quelque chose qui a été démontré, quoi. C'est qu'il y avait des parcelles qu'occupaient ces schlags, qu'ils avaient déjà mis une préemption officielle dessus, alors qu'il y avait encore des gens dessus, pour pouvoir cultiver, par exemple, faire de l'élevage ou de la culture.
Qui ont pris des habitations à d'autres, parfois, voilà. Comme ça, qui ont... Les gens ont découvert qu'ils étaient dans les négociations, leur terrain paraissait là, qu'ils n'étaient pas au courant, etc. Enfin,
Oui.
Ben, je disais quoi avant ?
Ben, on parlait de toutes les magouilles, toutes les trahisons.
Des expulsions faites par eux-mêmes, des violences. Je veux dire, il y a sur le site des gens qui ont publié le bouquin, il y a l'explication, c'est juste dans le bouquin une note, il y a c'est la citation dans le bouquin qui raconte comment au moment où la route des chicanes, donc les chicanes ont été enlevées pour permettre aux flics d'entrer sur la zone, il y a quelqu'un qui avait du goudron tout frais, qui avait réussi à saboter ça, quoi, une partie qui avait été le revendiquer en AG. Et dans la nuit, 6 personnes cagoulées sont entrées, ont défoncé la porte de sa cabane, coup de batte dans la tête, l'ont traîné, l'ont mis dans un coffre, l'ont tabassé à terre, à coup de pied, coup de batte, l'ont laissé attacher à un arbre, bâillonné, avec un bras et une jambe cassée. Donc ça a été jusque-là quand même, hein, des choses comme ça. Et ça, c'est pas les flics, c'est les gens sur la ZAD. Voilà concrètement, effectivement, la trahison. Par rapport à... je trouve par rapport à la maîtrise du langage, bon, c'est vrai que d'un côté, il y a des universitaires qui manient un certain langage, mais on le voit dans ce bouquin, tous les gens qui s'expriment s'expriment comme on le voit dans les Lascars, c'est des gens qui s'expriment très bien.
Très clairement, pas de problème beaucoup à plus clairement d'ailleurs. Au contraire.
Effectivement, ce que maîtrisent les autres, c'est le mensonge, l'hypocrisie, c'est décrit aussi dans le bouquin, tout un tas de choses, de vocabulaire qui apparaît, par exemple, pour décrire des choses, on ne sait pas trop ce que c'est, mais qui sont comme des slogans, enfin des choses qui sont martelées. Là, on parle de commun, on remplace on parle d'AG évidemment, l'AG des usages qui remplace, et puis des trucs complètement farfelus, comme dans le bouquin, ils vont utiliser des formules comme inquisiteur de la radicalité abstraite, ce genre de choses.
Moi, j'appellerais pas ça la maîtrise du langage, franchement.
Voilà. Enfin, c'est en tout cas, oui, la maîtrise pour parler de choses comme ça et pour parler de choses qui veulent rien dire ou qui cachent les vérités.
Souvent, en récupérant un vocabulaire justement de la subversion. ils récupèrent facilement un vocabulaire libertaire, d'ailleurs, pour donner l'impression que ce serait l'autogestion, par exemple. L'égalité, l'autogestion.
Et aussi, c'est vrai, en mettant aussi en contrôlant une forme de parole qui est dans les âgés, qui est contrôlée et qui s'exprime d'une certaine façon, qui correspond à eux, et pas forcément à tout le monde, s'exprime aussi dans les rap de l'atelier rap, là, qu'on va entendre après. Enfin, peut-être pas celui-là, mais s'exprime des gens qui arrivaient plus à s'exprimer de cette façon-là, par exemple, dans ces ateliers, qui étaient, pouvaient être des formes de communication aussi, mais qui étaient, qui sont intéressantes aussi, là aussi, qui sont des gens qui peuvent, même si c'est pas les formes académiques ou officielles ou des âgés formalisés, mais qui sont des choses aussi, des propos où les gens peuvent s'exprimer et exprimer des choses bien, bien plus intéressantes aussi. Et aussi quelque chose qui est aussi abordé dans le bouquin, c'est que il y a aussi toute une partie de gens qui étaient un peu entre les deux, qui étaient sans être les traîtres complètement et ni les schlags, étaient voilà, n'auraient pas fait les trahisons ni les violences, mais n'étaient pas non plus les schlags, et donc et faisaient un peu
la Suisse.
Oui, et voulaient justement chercher cette unité de tout le monde. On contribuait du coup à,
oui, ça c'est vrai,
à pacifier les relations et à et ont servi finalement les prétendus vainqueurs. Au final, c'était des gens aussi qui eux avaient peut-être quelque chose à gagner aussi, et avaient une possibilité, peut-être pouvaient espérer éventuellement de rester sur la ZAD aussi.
C'est possible, mais ils n'excluent pas non plus le fait qu'il y a des gens qui ont horreur des conflits et qui nourrissent l'espoir que simplement dire « Allez, quoi, faites-vous la bise, ça va tout arranger ». Et même si ça ne s'arrange pas, à la limite, rien que par leur au silence de pantoufle, ils vont en effet aider les agresseurs parce qu'ils ont tellement, ils détestent tellement les histoires, les conflits, les querelles de chapelle, enfin les querelles en général, que quand tu veux pas de querelles, tu te laisses faire, quoi, c'est tout. Oui, et tu laisses faire, voilà.
Il y a ça aussi, mais c'est globalement des gens aussi qui n'étaient pas dans la même position.
Oui, tu as peut-être raison.
Et puis voilà, et qui fassent aussi son nécessaire pour les autoritaires de s'imposer aussi. Et par rapport aux violences que j'évoquais tout à l'heure, oui, aussi des réactions du genre oui, mais on excusait ça aussi, quoi. On trouvait des prétextes pour oui, mais c'est bon, il a un peu cherché, ce genre de choses quand même, quoi. Donc c'est aussi une forme de compromission. Et parce que qui ont un rôle aussi dans tout ça, quoi. Comme la façon dont les autoritaires peuvent se servent aussi de ça pour s'imposer.
Moi, ça sera pour la semaine prochaine parce qu'il est 13h, mais évidemment.
Oui, mais on refera d'autres émissions.
Je l'ai annoncé, hein, évidemment, on a beaucoup de choses à dire encore. Voilà, donc on reviendra sur différentes interventions du livre. À noter que dans le livre, vous trouverez pas mal de notes, vous trouverez pas mal de liens avec différents sites, etc. Il y a, à travers tout ce qui est proposé comme notes et liens, c'est toute une source d'informations assez dense et riche qui est proposée. Le livre, je le disais, il est disponible dans des réseaux militants ou autres, et dans certains lieux de diffusion dont je disais la librairie Publico, directement à la librairie bien sûr, ou sur le site librairie-publico.com. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui.
Rappeler le débat que
et donc le 20 décembre, le 20 décembre, le 20 avril. ça sera un dimanche, ça sera à 16h, accueil dès 15h, bien sûr, et l'occasion, si vous le souhaitez, de venir discuter, échanger avec nous et entre vous.
Il n'y aura pas de conférence, faut le dire. Hein.
J'ai dit échanger entre nous
voilà,
ou entre vous.
Donc, pas de conférence.
145 rue Amelot, donc dans le 11e arrondissement, c'est l'adresse de la librairie Publico. Un dernier titre pour se quitter. Vous invitez à nous retrouver donc l'émission sur notre site anarchiste.info. Et le dernier titre qu'on va écouter, alors au choix, c'est donc ces ZAD Social Rap, au choix Main Tendue ou un autre titre qui s'intitule Pourquoi je reste. Au choix.
Main Tendue, on va dire.
Alors Main Tendue, on va écouter donc Main Tendue, donc le groupe c'est ZAD Social Rap. Au revoir, à la semaine prochaine.
L'état s'avance vers toi, rien de beau sur son passage. Enchaînement de sombres présages, la trace partout de leur carnage. Nous traite comme de la vermine, car ils voient bien que leur système, on le termine. Plus d'entre nous seront blessés, plus notre rage s'agrandira. Brise les doigts de l'état sur les cendres de leur monde. Avec le sang de nos compas, nos fleurs repousseront. Ici comme ailleurs, on est déter.
Quand la main tendue cache un tir tendu, tu sens la tension, ceux qui nous gouvernent. Entends-tu les os qui craquent sous les attaques des matraques? La police nous traque, démolit nos squats. Comment ne pas avoir la rage quand on étouffe sous les gaz? J'ai pas envie de serrer la main à ces connards de politique armés, de les destituer de leur pouvoir. Force et courage au peuple en gloire.
C'est une petite recette adressée à la préfète. Tends-moi la main, je te bouffe le bras, je te suce tes os jusqu'à la moelle, repas de schlag. Plus son cannibale, qu'est-ce qu'on me fait subir, ça compagne au champagne. Tant qu'on passe à table, j'essaie d'arrêter le bureaucrate, ça me rend malade. Le pire des carnes se mange en marmelade. Au pays de cocagne ou au goulag, je me lèche les doigts de ce carnage, de ce carnage.
Comme dirait l'autre, ta main tendue, c'est un coup de pied au cul. De qui tu te moques au bout de ton bras, y'a que ta matraque et tes grenades me tombent dessus. Dialogue de sourds à sens unique, tes négociations pulatriques. On n'est pas dupes, même si on trinque, paluche de sang dans le grand pétain. Y'a un pépin dans ta com, guerre de terrain, verre dans la pomme. Nos langues puantes, mensonges énormes, des visions d'avenir monochrome. De greenwashing en bleu marine, t'as choisi le camp de ceux qui répriment. Et je lève mon doigt face à tes ruines.
Main tendue de la préfète, main tendue de nos stratèges. Tire tendu, grenade lacrymogène et ça fait boum dans ta tête. Sursaute au moindre bruit derrière, chaque nuit les peurs qui te bercent. Demain, grenade et tire tendu de la préfète. Ces gens-là vendent des armes aux vieux singes. T'apprends pas la grimace, alors faire une affaire avec les seigneurs de l'arnaque. Fermé et blessé, le diable tend la main et te promet mort ou merveille. Pour t'en serrer dans les flammes, signe, accepte de perdre ton âme et ravale tes espoirs. Signe, accepte de perdre ton âme et ravale tes espoirs.
Maison transverse mes pommes, je voudrais m'enivrer d'arômes, oublier les hématomes. Glaire, terre, chair, serre, amère, à terre, austère, molaire, colère des fers, refaire en l'air les mains. Acier câlin d'ores et déjà, entre elle affûte tes yeux, tant punaise d'ornière, à phrase déchets muets, traîtres affables crevures, tiède mort sur du miel, avec dents pour dedans. Lorsque contre on s'épuise, l'épuisette à assiette, collabo, mégalo, démago, me file des limbagos.
Ton plan était parfait, oui c'est à la préfète que profite le cessez-le-feu. Affaire de communication, dans un gant de velours, une main de fer. L'accepter c'était consentir à la défaite. Si des portes s'ouvrent, combien se ferment? L'état de droit nous séquestre et lourdes sont les séquelles.
Et t'as tendu la main en te tapant dans les reins, tordu les poignets pour mieux te faire signer, te faire saigner, te faire bouffer tes 6 points de solidarité. Alors tu lâches du lest, tu balances le reste.
C'est nous les hérétiques.
Le nerf s'en bat tout, hors de compromission. Avec les pions de vos nations, ces bastillons de colons postillonnent du fiel par le fion. Ils sont si fiers de leur fief et de chier à la gueule des gueux.
T'attendais à quoi là où l'état n'est pas attendu? Tu te sens pas tendu, détends-toi avec ton armée là où le peuple s'est bien défendu. T'as bien entendu Manu, je te le redis. D'ici tu me feras pas partir tendu. J'attends pas que tu me tendes la main, sinon j'aurais déjà plus de bras d'honneur et demandeur de liberté là où la vie m'a rattrapé à bout de bras. Allez tirez-vous, bon débarras. Tout détruire, monnaie de bon cassa. On se retrouve demain, les copains, et ensemble on se reconstruira.
Ils ont l'avenir et des projets en pagaille. Évite le pire, se dissocie de la racaille. Ils se disent aussi qu'on les voit venir à garder leur place vaille que vaille. Ça compte nous couvrir, laisse-moi rire, on partage même pas le champ de bataille. L'assassise et chasse gardée comme une cerise sur le gâteau. Maîtrise l'art de composer, ouais, donne la pâté au bourreau. Mais après tout ce temps ramé, il restera qui sur le radeau? Si refuser de collaborer, c'est risquer de se foutre à l'eau.
Enfermé, cabane rasée, blessé, des milliers de grenades lancées, pierre molotov contre blindés, Robocop surarmé. Voici le beau tableau entre hélico et lacrymo, sans parler des collabos qui cassent sans cesse du sucre dans le dos. Serrer la main avec un canon sur la tempe, n'est qu'une image, mais balayer l'espoir de tant de gens qui n'ont pas pris ce virage. Team phase a commencé, assume, renonce, pourquoi on résiste. Car de l'azad, j'attendais mieux qu'un simple Larzac bis. Si on est plein à pas prendre la parole, c'est parce qu'on en a ras-le-bol. Si je suis là, c'est pour les autres, c'est pas pour toi que je finirai en tol.
Coche la petite case ou tu vas bouffer du gaz. Signe pour la cage ou bien dégage. On te dicte, t'as le choix, parce que te dicte la loi. L'âme attendue comme pour une gifle, bien entendu qu'on sort les griffes. Une claque assourdissante qui fait monter les larmes. Un cul-de-sac, une redescente vient tronquer le charme. Les nos pierres contre les chars, pliant ce qui nous est cher. Trop précieux car trop rare, ça rentre pas dans le formulaire. Ça rentre pas dans le formulaire.
La main tendue des faux amis qui a pendu en 1422 les taboristes et leur magie qui a signé en 36 la simulation de Durruti. La main tendue des soviétiques a sculpté, a détruit les statues de Bakounine. Cette main fait pas des caresses de tout le temps, c'est la main traîtresse. En temps de guerre, les mains se serrent, celles de ce sale traître et des mains de fer. Si on lui casse les doigts, qu'est-ce qui se passera? Millénaire sabbatique, la mémoire des hérétiques. Sortilège du 15e quand les nobles ont tremblé. Ils ont laissé les graines du temps où les joies bourbons coulaient. Millénaire sabbatique, millénaire. Sabbatique.
Après deux semaines d'expulsion, je rêve juste qu'on ait pendu la main tendue. Pour moi, c'est juste le bras armé de la répression. On se fait nasser comme des poissons. Et j'ai bien l'impression qu'une fois leur poison distillé, ils vont libérer la pression. C'est que des morts, ça les arrange. De qui vient l'agression, offensive incapacitante et même des tanks à pression. Je crois que je vais miner le terrain de toute faction. On n'a plus rien à négocier, assez parler, place à l'action.
15 jours d'expulsion, toujours plus de sommation.
Nous allons faire usage de la force.
Nos défenses seront en force, on n'est pas prêt de se rendre. Tu finiras par te prendre. Négociation pour quoi faire, on n'est pas prêt de se taire. Les barricades continueront et les cabanes refleuriront. Vous êtes là pour se détruire, nous on sera là pour reconstruire.
Vous êtes là pour se détruire, on sera là pour reconstruire.
Vous êtes là pour se détruire, on sera là pour reconstruire.
Bien trop tendu par l'étendue de vos violences policières. Tu peux nous voir vendus, pendus, nous passer les fers. Tic tendu à tout va. Tu parles de négociation, pas facile crois-moi. Avec un blindé devant ta maison, tu joues la division, les agris d'un côté. De l'autre les radicaux que tu voudrais voir dégager. Rien à déclarer, rien à négocier. Y'a juste une préfecture qui finira brûlée.
Passer en AG, ils ont menacé de nous lâcher. Les mains tendues, ils finiront pendus. Jamais refus, ils foncent tête baissée, nous forcent à négocier. La main tendue, ils voudront signer. Après le refus, les négociations vont sauter. Ça va péter, les mains tendues seront pendues. Les corrompus, les coups rompus, les coups rompus.